Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on se retrouve à 17h pour une heure de direct pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Christian Etienne, vice-président du Cercle Celtic 16 Avel, il nous parlera du Fest-Noz édition 2017 qui se tiendra samedi soir à la Meurice de Trappes. Olivier Marty, membre d'Attaque 78, sera également avec nous. Il nous présentera l'Université populaire du 7-8, c'est mardi prochain, le 28 mars, au Scarabée de la Verrière, le thème de la conférence « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin » par Eliane Viennot. Au menu de Marmite fait son actu, on retrouve l'actu du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël, la critique d'un film Loving avec Cindy, la chronique consommation responsable de Chloé qui nous parlera des perturbateurs endocriniens, le flash d'actu local c'est à 17h30 avec Julien Mathieu et bien sûr l'agenda culturel du week-end en fin d'émission. Le fondateur du rock'n'roll nous a quittés la semaine dernière, alors on va lui rendre un petit hommage pendant cette heure en diffusant ses titres phares. Chuck Berry, donc, vous l'aurez compris, avec un de ses titres phares, Johnny B. Goode, enregistré le 6 janvier 1958 au studio Chess Records, Chicago. Et c'est Marty McFly qui nous fait le petit lancement.
On y va. On va vous jouer un bon vieux rock, bien rétro. Enfin, c'est-à-dire, là d'où je viens, c'est un vieux rock bien rétro.
Johnny B. Goode sur les ondes de Marmite FM 88.4. Il est 17h passé de 5 minutes. Toujours dans votre émission Marmite fait son actu, on passe au premier invité de la Marmite.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Christian Etienne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du Cercle Celtic 16 Avel et vous organisez votre 22e Festnose samedi à 20h15 à la Meurise. Et cette année, le Cercle Celtic 16 Avel fête ses 45 ans, donc bon anniversaire déjà. Ah, oui. Ouais, vous êtes plutôt, vous me l'aviez dit tout à l'heure, hein, ça fait 45 ans que vous y êtes.
Ah, j'y suis depuis l'origine, oui. Ouais. Je suis arrivé 6 mois après sa création.
Bah, racontez-nous un petit peu, alors comment s'est passé, comment s'est faite cette création de l'association 16 Avel?
Alors voilà, c'est que dans les années 70, début des années 70, tout le monde s'en souvient, il y avait un phénomène musical qui avait été créé par Alain Stivel.
Ouais.
Et donc il y a eu une résurgence des cultures régionales. Je pense que la culture pilote, ça a été la culture bretonne qui a entraîné toutes les autres. Et forcément, à ce moment-là, il y a des Bretons qui étaient immigrés un peu partout en France et dans le monde, se sont rappelés qu'ils avaient une culture. Mmh. Et donc, ils ont ressenti le besoin de se retrouver, de se regrouper et pour promouvoir cette culture. Et donc, c'était à travers principalement des cercles celtiques qui ont cette mission de continuer à promouvoir la tradition bretonne à travers la danse et sa musique.
Alors, en 45 ans, il s'en est passé des choses. Puisque les... Oui, on va pas tout raconter. Puisque les Festnoz, notamment, que vous êtes venu présenter aujourd'hui, sont entrés dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors, ouais. C'est une vraie reconnaissance, du coup, de la tradition et de la tradition bretonne en l'occurrence.
C'est parce que c'est une très grande particularité dans cette culture. En fait, vous avez à travers le chant, la danse, dans cette soirée, vous avez le chant, la danse, la musique, et la particularité, c'est que toutes les générations sont mélangées. Mmh. Donc, si vous venez au Festnoz, vous allez voir des enfants, dans les premières heures, très jeunes, qui dansent avec leurs parents, et quelquefois leurs grands-parents qui sont encore là.
Alors, ce sont surtout des danses de groupe, hein, puisqu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Le Festnoz, comment il se déroule? Donc, il y a des groupes qui jouent de la musique et ensuite il y a...
Voilà, dans la
salle. Et en même temps, en fait, ce sont des danses de groupe.
Alors, c'est...
Pas forcément.
Hein, donc, il y avait des danses traditionnelles qui étaient des danses qu'on effectuait après les travaux des chants. Donc, celles-là, si vous voulez, c'est des danses justement qu'on voit généralement en chaîne, où les gens se tiennent coude à coude ou par le petit doigt. Mais ça, l'anecdote du petit doigt, c'est pour des problèmes religieux.
C'est-à-dire que... C'est-à-dire
voilà. On me demande toujours pourquoi le petit doigt.
Oui.
Eh bien, si vous regardez dans tous les pays du monde, hein, que ce soit les pays de l'Est ou les pays latins, mmh, d'Amérique latine, entre autres, vous voyez les danseurs qui se regardent en face l'un de l'autre et mettent les bras en l'air.
Ouais.
C'est pour montrer qu'ils ne se touchent pas.
Mmh.
Par rapport au curé qui les surveillait, pour pas m'inventer, on était là entre nous, mais on se touche pas. Mais bon, les Bretons, vous savez qu'ils sont un peu têtus.
Ils ont la tête dure, comme on dit.
Voilà, donc dans certaines paroisses, on leur imposait, si vous voulez se tenir, de se tenir avec ce qu'on appelait un carré qui est un mouchoir. Et puis, très très vite, les Bretons ont eu ras-le-bol de se tenir avec un mouchoir, et ils se sont tenus par le petit doigt. Alors c'était toléré par les abbés en disant, vous tenez par la plus petite partie du corps. Voilà, c'était une sorte de rébellion.
Bon,
les Bretons sont toujours un petit peu rebelles.
Déjà. Alors justement, qui sont les groupes invités samedi? Il y en a plusieurs. Le groupe phare, hein, on peut commencer par celui-là, Dour, le Potier Quartet. Alors 3 ans après la sortie du premier album, hein, qui a affirmé le son du groupe, après 50 scènes festivals, ils vont présenter leur deuxième album scène.
Oui, alors là c'est une... On est très fiers parce qu'ils viennent lancer leur deuxième album au Festnoz de Trappes. Mmh. C'est-à-dire que nous ferons cette gentillesse. Et donc, pour fêter cet événement, et ils seront accompagnés d'un chanteur qui est Rowan Lange, qui est un chanteur habituellement de Canaan Niskan, et il participera à la soirée avec eux pour faire le lancement de ce deuxième album.
Alors, je vais donner le titre du deuxième album, Pardonnez mon breton. Donc, c'est Treuziou Ar Pewar Awel. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Je ne traduirai pas parce que je ne parle pas le breton. Mon grand regret. Et je connais quelques mots, mais je ferai des erreurs. Donc
si quelqu'un qui maîtrise le breton peut nous appeler au 01 30 51 78 78, 01 30 51 78 78, pour nous traduire le titre de l'album. À défaut de le traduire, on va en écouter un petit extrait.
Oui, alors vous allez voir, c'est une musique assez originale. Oui.
pour le Potier Quartet, donc sur Marmite FM 88.4. Alors, c'est intéressant, hein, Christian Etienne, dans leur deuxième album, et d'ailleurs, les Trappistes, les Saint-Quentinois ou tous ceux qui viendront au Fest-Noz samedi pourront le découvrir. Ils se sont nourris vraiment de différentes cultures, puisqu'ils ont invité des musiciens d'Inde, d'Allemagne, de La Réunion, du Poitou, et j'adore, c'est ce qui est dans la présentation de leur site, et bien sûr de Bretagne. Voilà, avec Yuen Lange qui sera également présent.
Tout à fait, et c'était une démarche qu'avait déjà fait Alain Civel, pour ouais. les plus anciens qui se souviennent d'Alain Civel. Donc il avait fait cette démarche pour incorporer des sonorités autres que bretonnes.
Alors parmi les autres groupes qui sont présents, Dizanve, vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors Dizanve, c'est le groupe local.
Ouais.
Qui est une formation qui est issue du cercle Celtique Sazavel. Mmh. C'est-à-dire que les musiciens, ce sont les musiciens, pour simplifier, ce sont les musiciens de Sazavel.
D'accord. Donc voilà. qui se produiront également. Bah, c'est l'occasion de les voir pour ceux qui les ont encore, qui ne les ont pas encore vus. Le Goff.
Alors Le Goff, ce sont deux dames qui chantent du canadiscan, qui est du chant à réponse breton.
Alors qu'est-ce que c'est du chant à réponse ?
Alors voilà, il y a une première chanteuse en l'occurrence qui interprète une phrase ou un début de phrase et l'autre personne lui répond.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et Marie-Christine, c'est pareil, ce sont des gens qui font le même style de chanson, le même style de chanson, le canadiscan. Et pour la petite anecdote, ce sont deux danseuses de Sazavel.
D'accord.
Voilà. Et je tenais, si
on va sauter, allez-y.
Tanarvest. Mmh. Alors je vais vous parler de Tanarvest, parce que Tanarvest, c'est une particularité que la chanteuse est à la fois musicienne, chanteuse et danseuse à Sazavel. Et elle a passé elle nous a rencontrés il y a 3 ans, parce que pour des raisons professionnelles, elle est arrivée sur la région parisienne. Et ben, elle a recherché un groupe dans lequel elle pouvait se retrouver. Et elle est repartie en Bretagne, mais elle continue à être adhérente à Sazavel. Et avant de venir à Trappes, elle avait cette formation Tanarvès, où elle écumait les Fest-Noz en Bretagne. Et ben, cette fois-ci, elle vient avec son groupe aux Fest-Noz de Trappes.
Ah, il faut savoir qu'il y a des classements dans les Fest-Noz. Hein.
Oui.
Il y a des sortes de, je ne sais pas, peut-être des guides comme le guide Michelin.
Comme le guide Gomillot. Disons, vous avez des gens qui viennent, qui payent leur place.
Discrètement.
Discrètement. Ils viennent comme tout chacun. Voilà, ils viennent aux Fest-Noz et ils regardent comment ça se passe au niveau de l'organisation. Alors, c'est dès l'accueil sur le parking jusqu'à la fin de la soirée. Et après ça, on se retrouve noté en catégorie sur les Fest-Noz de la région parisienne. Mmh. Et depuis plusieurs années, on est à l'heure actuelle le troisième meilleur Fest-Noz de l'île de France. Ouais. Mmh. Ouais.
Il y en a beaucoup de Fest-Noz.
Ah, bah, quasiment toutes les semaines.
Toutes les semaines. Mmh. On n'a pas parlé du Bagad de 50 ans, Yveline, qui sera également présent. Alors, ouais. Qu'est-ce que c'est un Bagad ?
Alors, Bagad, c'est une formation musicale qui est composée d'instruments avant que la cornemuse, et la cornemuse, tout le monde connaît, et la bombarde, qui est l'instrument, le petit hautbois, sort énormément de décibels, et des percussions. Voilà. Qui est dans la différence avec la pipe band. En pipe band, vous avez que des cornemuses. Un Bagad, vous avez cornemuses et bombarde.
Voilà, donc tout ça, ce sera pour ambiancer, comme on dit, la Meurise, le samedi donc 25 mars à 20h15. Les petites infos pratiques, alors combien ça coûte pour celles et ceux qui veulent participer ? Est-ce qu'il reste encore des places ?
Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, il y avait une réservation qui est terminée à l'heure actuelle, où à partir d'un groupe de 10 personnes, c'était 8 euros par personne. Et là, les gens qui se présenteront à la Meurise, ça sera 10 euros. Donc, parce que les réservations sont arrêtées et ne pourront venir que les jeunes enfants, mais accompagnés de leurs parents. Hein, on y tient pour des raisons de sécurité. Et voilà. Et donc, les enfants de moins de 12 ans ne payent pas.
Ah, donc les enfants de moins de 12 ans ne payent pas, donc n'hésitez pas à venir en famille.
Tout à fait.
C'est un spectacle, c'est une soirée très familiale.
Là, ce qu'on conseille, c'est que les parents qui viennent avec des jeunes enfants, j'estime que avant 6 ans, c'est trop tôt. Voilà. 6-7 ans, ça leur permet de découvrir, mais voilà, il faut qu'ils prennent aussi plaisir.
On va se quitter en musique, si vous voulez bien, Christian Etienne, avec un autre extrait que de CD que vous nous avez apporté. Alors, sur quoi on se quitte? Qu'est-ce que vous voulez écouter?
Ah ben, je sais pas. Bah, on va passer de Dour, hein, qui est le groupe leader.
Voilà, bah on va
un numéro au hasard.
Oui, elle est au hasard. Donc Dour, le Poitiers Quartet, qui, je le rappelle, hein, jouera son deuxième.
Je crois qu'on n'a pas passé Tanarvest.
Ah non, c'est Tanarvest qu'on n'a pas passé. Bon, c'est pas grave, hein, on est en direct. Allez, on va passer Tanarvest, parce qu'effectivement, on a écouté Dour, le Poitiers Quartet.
Avec,
en plus, Tanarvest, il y a. Voilà,
avec
quelqu'un,
Marie,
il y a quelqu'un
Marie
de Césavel.
Qui est musicienne, chanteuse, danseuse à Césavel, et qui est depuis plusieurs années avec, avec le groupe Tanarvest, et qui sillonne les Fesnoz en Bretagne.
Merci, Monsieur Etienne, d'être venu au micro de la Marmite, et puis bon Fesnoz.
Ben, je vous remercie, et à bientôt.
Allez, Tanarvest.
Kishin main army, tra la 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 la. Kishin main army, who does muyero eyo? Kishin main army, tra la 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 la. Kishin main army, who does muyero eyo? Who does muyeto erge? Who does muyero eyo? Who does muyeto erge? Who does muyero eyo? Age basa besi, tra la la. La 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 la, ge baza bese. Yoaro servishure, za ge baza.
Marmite et son actu, rediffusion tous les vendredis de 17h à 18h.
Allez, il est arrivé dans les studios de Marmite FM 88.4. C'est bien sûr Gaël, on va passer à l'actu du ciné, Le Grenier à sel.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Bonjour Gaël.
Bonjour Nouradine, bonjour tout le monde.
Alors, le printemps du cinéma s'est terminé hier.
Tiens, oui.
Alors, un petit bilan, ça va, ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé. En vérité, je vais le dire très officiellement, ça n'a pas un grand impact sur le grenier à sel.
Tu n'essaies même pas de nous vendre le truc en disant « Oui, c'était magnifique, nous avons fait ça le comble pendant 3 jours ».
Non, je rappelle le principe, c'est 4 euros pour toute la séance, pour tout le monde, à toutes les séances qui étaient entre dimanche, lundi et mardi. Et c'est clairement un dispositif pour les multiplex et nous
et moins pour les cinémas de proximité
et surtout pour les cinémas qui ont un seul écran et qui peuvent pas se permettre d'avoir une programmation énorme avec 20 films par jour, donc forcément ça se ressent moins chez nous. Néanmoins, nos spectateurs, on peut profiter de ce tarif à 4 euros aussi, on va pas se priver.
Voilà. Surtout que vous proposez de toute façon des tarifs qui sont pas loin de 4 euros en général et puis toute l'année.
Oui, pour les moins de 14 ans, c'est 4 euros. Pour les enfants qui participent aux dispositifs d'éducation au cinéma chez nous, c'est même 3 euros pour eux et un accompagnateur. Donc ça fait 6, hein, ça fait pas, c'est pas 3 euros les deux, hein, quand même.
Okay, bon.
Et notre abonnement, il est à 4,30 euros. Donc de toute façon, les gens qui viennent avec leur abonnement, ils font « Ah, c'est le printemps du cinéma !» C'est quoi? C'est 4,30 euros contre 4 euros? Bon, je préfère payer avec ma carte. Et finalement, ils paient 4,30 euros et voilà. Bref, voilà. J'entendais tout à l'heure que vous étiez noté...
Pour les Fesnoz.
Fesnoz, pardon, oui. Voilà, pour les Fesnoz, je démarre comme ça, comme si tout le monde savait de quoi je parle. Que les Fesnoz, il y avait des gens qui payaient leur place et qui venaient pour... pour noter les fesses nazes. Et ça me fait penser à une petite anecdote, parce que nous aussi, on est noté. Nous aussi, il y a des gens comme ça qui rentrent dans la salle discrètement. Ce sont les inspecteurs du CNC qui payent leur place, viennent s'asseoir, comptent les gens
le
dans la salle.
Le CNC qui est le
Centre National de la Cinématographie, ouais. Donc qui fait partie du ministère de la Culture. Et le monsieur ou la dame rentre dans la salle, compte les spectateurs et repartent chez eux. Ils reviennent sur une autre séance, ils comptent les spectateurs et quelques temps plus tard, ils nous demandent nos chiffres de cette journée. Et on doit bien évidemment tomber sur le même compte que eux. Si moi je suis dans la salle, ils vont tolérer qu'il y ait une personne qui soit gratuite du cinéma, hein, ok. Mais on a plutôt intérêt à tomber sur les bons chiffres. Donc ça nous est arrivé il y a un an et... On a eu la chance
d'avoir les bons chiffres
parce que c'est quand même pas facile. Je vous rappelle qu'il faut quand même que chaque personne dans la salle ait son billet, même si c'est une invitation, même qui que ce soit. Donc c'est des choses qui rigolent pas puisqu'on les déclare immédiatement au CNC. Mais il y a même quelqu'un qui vient vérifier que dans notre salle, c'est juste et c'est correct.
Donc à partir du moment où il y a les bons chiffres, c'est bon. Ça veut dire que si par exemple t'as très peu de spectateurs, on s'en fiche, c'est pas ça qui compte.
Non, eux, ils veulent que ce qu'on déclare, c'est réel, puisqu'il y a de l'argent qui va... On paye le film avec cet argent, avec l'argent des entrées, donc il faut pas qu'on triche auprès des distributeurs à qui appartient le film, et il faut pas non plus qu'on triche auprès du CNC, puisqu'on donne de l'argent aussi à partir des... On donne 10% de nos recettes au CNC aussi, donc...
Donc on est fiers de dire qu'il n'y a pas de spectateurs fictifs au Grenier à sel.
Ni fictif, ni en moins, ni en trop. Ne triche pas. Et je précise que, puisqu'il y a une dame qui m'a demandé tout à l'heure, on est aussi limité en nombre d'invitations.
Ah
on
oui.
peut pas inviter tout le monde. On peut pas faire une séance gratuite ou des trucs comme ça, puisque le film est payé avec les recettes. Et s'il n'y a pas de recettes, le distributeur va pas être content. Mmh. Donc on a maximum 2% de nos entrées qui peuvent être des invitations. Maximum 2%. C'est quand même
donc,
pas
comme
grand-chose.
La salle elle fait 200 places à peu près.
C'est comme, surtout comme on fait 25 000 entrées par an et qu'on fait beaucoup de scolaires, on invite les enseignants. On va pas les faire payer à chaque fois. Mm-hmm. Et bah, du coup, nos 2%, ils sont presque déjà complètement entamés comme ça. Donc on n'est pas très très généreux en invitation parce qu'on ne peut pas l'être. Bon voilà, c'était la petite anecdote.
C'est maintenant que je te demande une invitation.
Mais si tu viens avec ton micro, tu seras toléré, évidemment. D'ailleurs, tu peux venir cette semaine, puisqu'on a plusieurs choses. Et demain,
notamment vendredi, oui.
Bah, j'allais même aller plus vite que toi,
plus vite que moi.
Puisque demain, on est jeudi, on est fermé au public.
Ouais.
Mais je vais quand même aller travailler demain, puisque demain soir, je veux dire, puisque cet été, l'été dernier, il y a Google et YouTube France qui sont venus à Trappes et dans 50 autres villes de France. Pour rencontrer les jeunes, les accompagner dans leur lecture des images sur Internet et évidemment sur YouTube, et la violence, toutes ces choses-là. Et ils ont aussi fait les ateliers où ils ont eux-mêmes créé leur film. D'ailleurs, la manifestation s'appelle « Toi-même, tu filmes ». Ils ont tourné avec des téléphones portables.
Et des petits courts-métrages.
Ouais. Des petits courts-métrages qu'ils ont écrits, qu'ils ont discutés. Le thème, c'est la fraternité. Ils les ont écrits ensemble, ils les ont tournés. Il y a un documentaire... qui va être issu de cette tournée en France. Et l'avant-première de ce documentaire aura lieu demain à Trappes. Alors, ils ont été dans 50 villes, mais ça va commencer demain à Trappes. Et il y aura aussi la projection des films trappistes. Donc, je ne l'annonce pas pour qu'il y ait du monde qui vienne, puisque de toute façon, c'est réservé aux jeunes qui ont fait partie du truc, c'est réservé aux personnes, bon, les Japelins, en fait, clairement. Mais c'était plus pour annoncer l'événement qui va se produire demain. Ça s'appelle « Toi-même, tu filmes ». Et c'est organisé avec YouTube, la mairie de Trappes et puis nous. Bon, voilà. Et donc...
Vendredi,
dans le cadre...
On part au Japon.
Dans le cadre des Lumières du Grenier, qui est notre programmation annuelle des grands classiques de cinéma, nous recevons une journaliste, Maëva Deloge d'Agba, qui viendra nous parler du film Le Château de l'Araignée, un grand classique d'Akira Kurosawa, qu'il a tourné en 57, donc c'est un monsieur qui est mort en 98, je crois, et qui a fait qui a toute une énorme série de films incroyables à son actif, donc quand on parle de classique du cinéma, tout le monde ne connaît pas le cinéma japonais, tout le monde ne connaît pas Kurosawa, mais en tout cas c'est le genre noir, c'est le Charlie Chaplin du Japon, c'est quelque chose d'assez... c'est pas un film drôle, on dit Charlie Chaplin, on n'est pas dans du burlesque. Là, c'est une transposition de Macbeth dans le Japon féodal, Et il l'a tourné d'une manière un peu particulière par rapport à ses autres films et par rapport aux films de cette époque, puisqu'il s'est inspiré du théâtre japonais où les acteurs ne bougent pas énormément sur la scène, mais qu'ils ont énormément d'expression sur le visage. Et donc, je ne vais pas trop vous raconter, puisqu'on a une journaliste qui viendra nous en parler demain, donc c'est elle qui vous racontera
après
tout
demain,
ça.
Ouais.
Après-demain, merci. Ce sera donc vendredi 24 mars à 20h45, et les tarifs, c'est les tarifs normaux. Donc, le Château de l'Araignée, vendredi soir. Pour je parlais des tarifs spéciaux pour les enfants qui participent au dispositif d'éducation au cinéma. Ces enfants voient notamment Hugo Cabret, un film d'aventure de Martin Scorsese, qui est pour les enfants à partir de 7 ans. Et les enfants, vos enfants, ont certainement vu ce film avec leur classe, ont certainement travaillé, ou s'il s'est pas encore fait, ils le feront dans les jours qui viennent. Et si vous voulez en parler avec eux, voir ce film avec eux, pour qu'eux, ils vous en parlent, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, c'est de voir la découverte qu'ils en ont fait avec l'école. Et donc, vous pouvez venir ce dimanche après-midi à 15h. Le tarif, c'est pour tout le monde à 3€. Et vous pourrez en reparler après à la maison. Le film est en version française. Les autres films de la semaine, nous avons Lion, un film australien dont on a beaucoup entendu parler. Il a eu pas mal de nominations aux Oscars. Il a eu... on le compare à et voilà, Slumdog Millionnaire. Ça va, je l'avais trouvé, c'était revenu, c'est bon. Merci Fred. Slumdog Millionnaire. C'est vrai que ça se passe en Inde, on est sur quelque chose de... sur un film très... c'est un drame assez émouvant. C'est l'histoire vraie, incroyable et vraie, de Saru, un petit garçon de 5 ans qui se retrouve tout seul dans un train qui l'éloigne de sa famille, et il se retrouve à Bombay tout seul, et pendant plusieurs mois il reste tout seul à Bombay, séparé de sa famille, et il finit dans un orphelinat où il est adopté par un couple d'Australiens. Et 25 ans plus tard, il y a tout qui revient à la surface. Il repense à sa famille et il est complètement obsédé par retrouver sa mère qu'il n'a pas vue depuis 25 ans. Et sauf que un 5 ans, on ne se rappelle pas de grand-chose et il n'a aucun indice sur où se trouve le village.
Je suis en train de comprendre. Il a pris un train qu'il ne devait pas prendre.
Il s'est endormi dans un train.
Ah oui, d'accord.
Il s'est perdu.
Okay.
Et il a perdu toute sa famille, son frère, sa mère. Et du coup, il coupe tous les ponts, il arrête tout ce qu'il est en train de faire parce qu'il est complètement obnubilé par ça pour retrouver sa famille. On le propose en version française et en version originale à partir d'aujourd'hui. Et c'est un film qui fait pleurer. Prévoyez vos mouchoirs. Je vous le dis parce que c'est un peu fait exprès.
Merci pour l'annonce.
C'est vraiment... ils vont chercher la petite larme et ça marche hein, d'ailleurs. Les autres films, on a Patient 2 et avec, enfin, de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir, inspiré de l'histoire de Grand Corps Malade qui est dans un centre de rééducation suite à un grave accident et c'est la vie dans un centre de rééducation. Donc Grand Corps Malade, il a passé un an dans un centre et il était, je ne sais plus jusqu'où il était bloqué.
Mais ouais, il était paralysé.
Il était paralysé, quoi. Pas mal. C'est un beau coup de cœur. Je vous conseille vraiment de voir ce film. Et je finis par le dernier film qui s'appelle Paris pieds nus de Abel et Gordon. Donc on avait reçu en 2008 Fiona Gordon et Dominique Abel qui sont issus du monde du spectacle. C'est un peu des clowns, c'est un peu du burlesque ce qu'ils font. Ils créent des scènes et je me rappelle d'une scène dans le film qu'ils avaient présenté en 2008 qui s'appelait Rumba, où ils doivent se changer dans une voiture minuscule tous les deux et ils sont pressés, donc ils n'ont pas le temps de s'arrêter et ils se contorsionnent dans tous les sens, ils conduisent avec un pied, ils ne regardent pas la route et ça peut durer une demi-heure, on est capable de régler ça une demi-heure parce que ça fonctionne super bien. Donc ils sont physiquement assez impressionnants. Là, c'est Fiona qui est bibliothécaire au Canada, arrive à Paris parce qu'elle veut retrouver sa vieille tante qui est en détresse. Mais en fait, la vieille tante a disparu et Fiona part la chercher dans Paris. Et là, c'est donc une course-poursuite un peu démente dans laquelle s'invite Dom, qui est un SDF un peu collant. Et on retrouve dans ce film aussi Pierre Richard. Ça fait plaisir de voir ces gens-là. Et je vous le conseille vraiment. Si vous ne savez pas quoi faire... ce soir à 18h30 par exemple, ou dimanche à 18h, ou en tout cas vraiment c'est une petite découverte. Et comme on le disait tout à l'heure, en plus, c'est pas très cher chez nous, donc vous privez pas de venir découvrir ça. Vous retrouvez les autres horaires, parce qu'il n'y a pas que ces séances-là, hein. Vous retrouvez tous les autres horaires sur l'antenne internet cinemagrenierassel.com. Voilà, merci. Je m'arrête là.
Merci Gaël.
Merci.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Allez, sans transition, le flash d'actu local. Allez, un petit tour de l'actualité en bref avec Julien Mathieu. À toi Julien.
Et on commence avec Saint-Quentin-en-Yvelines qui est partenaire de la 7e édition de la Semaine de l'Industrie. Elle se déroule du 20 au 26 mars et elle a pour but de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'industrie en promouvant une image innovante et respectueuse de l'environnement. Un large choix d'événements est proposé au public, hein, job dating, visites d'entreprise, conférences, débats. 5 entreprises de l'agglomération sont à l'honneur. Les étudiants pourront donc visiter le site Airbus à Élancourt, Valeo et Skylab à La Verrière, la SNCF à Montigny-le-Bretonneux et Merck à Guyancourt. L'inscription se fait directement sur Internet. À Montigny-le-Bretonneux, 2 entrepreneuses ont lancé un site dédié au sport. Desportéo.com, c'est son nom, permet d'acheter ou vendre du matériel de sport neuf ou d'occasion. Les deux associées Anne-Sophie Le Parenton et Pauline Auger sont d'anciennes athlètes de haut niveau. Domiciliées au sein de l'hôtel d'entreprise Promopole à Montigny, le site compte pour l'instant plus de 3000 produits. Le catalogue devrait progressivement s'étoffer jusqu'à atteindre les 20 000 articles prévus pour la fin de l'année. Des partenariats avec des sportifs professionnels sont également prévus. À Montigny-le-Bretonneux, toujours, l'immeuble international à côté de la gare va être restructuré. Le programme vise à la création de 131 logements pour autant de places de stationnement autour du bâtiment. Ce projet prévoit également la réalisation de près de 20 000 m² de bureaux neufs. Les travaux auront lieu entre l'été 2017 et le premier trimestre de 2020. Philippe Chevrier, l'ancien secrétaire départemental des Yvelines pour le Front National, veut désormais faire cavalier seul. Il avait été évincé de son poste l'année dernière après avoir participé au rassemblement organisé par Jean-Marie Le Pen. En créant son propre parti, Philippe Chevrier souhaite présenter des candidats aux prochaines législatives. La MJC de Manille-et-Amour organise la 24e édition du Salon des peintres jusqu'au 27 mars à la Maison des Bonheurs. L'exposition réunit aussi bien des peintres amateurs que des professionnels de la région. Et on reste à Manille-et-Amour avec l'organisation du Frenchie US Camp. Il s'agit d'un stage de basket entièrement en anglais. Durant une semaine, des jeunes sportifs seront encadrés par des intervenants issus du championnat universitaire américain. Le stage se déroulera du 3 au 7 avril prochain. Et puis on termine avec l'astronaute Thomas Pesquet, qui était ce lundi 20 janvier en visioconférence avec près de 10 000 classes à travers le monde. En apesanteur à 400 km d'altitude, il a notamment répondu aux questions des élèves de toutes les écoles de la ville d'Élancourt.
Merci Julien, toujours une émission, hein, où je vous avais dit tout à l'heure en introduction qu'on allait écouter quelques morceaux de Chuck Berry qui nous a quitté la semaine dernière, donc le fondateur du rock'n'roll. On écoute le titre Sweet Little Sixteen, extrait de l'album One Dozen Berries, sorti en 1958. They're really rockin' in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I've been.
cause they'll be rocking on the bandstand in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with, ooh, sweet little 16, sweet little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay.
Ça rock hein, sur les ondes de Marmite FM 88.4. Il est 17h passé de 38 minutes. Toujours dans votre émission Marmite fait son actu, on passe au deuxième invité de la Marmite.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Olivier Marty, bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes membre d'Attaque 78 Sud. Vous organisez une conférence dans le cadre des universités populaires du 7-8 sur le thème Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin avec Eliane Viennot, qui est professeure de littérature française. Également militante féministe. Alors, est-ce que vous pourriez, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous rappeler le principe des universités populaires d'attaque ?
Alors, nous, on organise ça depuis 5 ans maintenant. Ouais. Et c'est une série de conférences où on essaye de remettre un peu en cause les idées reçues en termes d'économie, d'histoire, de sociologie. Donc, ça se passe en association avec Attaque 78 Nord. Donc, il y a une partie des conférences qui se font maintenant à La Verrière, ouais, au Scarabée. Et puis une partie qui se fait du côté de Mantes, dans une librairie qui accueille les conférences.
Alors l'intervenante Eliane Viennot donc est autrice, comme elle se nomme, de plusieurs ouvrages dont Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, Petite histoire des résistances de la langue française, paru en 2014 aux éditions X. Elle part du constat que les hommes ont masculinisé la grammaire, c'est-à-dire...
Alors, le masculin l'emporte sur le féminin, qu'est-ce que vous l'avez entendu à l'école ?
Ah oui, bah ça, je l'entends encore.
Et donc, voilà, on dit une chaise et un fauteuil vert, parce qu'il y a le fauteuil dans la série. Et puis, ce qu'on vous a fait croire à l'école, c'est que ça a toujours été comme ça. Et Eliane Viennot, qui est professeure de littérature, mais aussi historienne, elle constate dans des textes anciens que non, ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'autrefois, on disait... une chaise et un fauteuil vert, parce que le fauteuil en dernier, mais qu'on disait un fauteuil et une chaise verte, parce qu'on accordait avec le dernier. Et les gens parlaient comme ça jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais les hommes n'ont pas apprécié, donc les grammairiens ont essayé de convaincre les gens qu'il ne fallait pas faire comme ça, que le masculin l'emportait sur le féminin. Alors les Français ont beaucoup résisté. Et puis un jour, au milieu du 19e, l'instruction publique, l'éducation nationale de l'époque, a dit « c'est comme ça, les enfants, ils doivent apprendre ça et parler tous comme ça ». Et depuis, on croit que ça se fait depuis la nuit des temps, mais non.
Donc ce que vous nous dites, c'est un petit peu la faute de l'école publique. Hein, parce qu'avant, quand il y avait pas trop enfin, quand l'école n'était pas obligatoire et qu'il n'y avait pas d'instruction, le féminin, le masculin se conjuguait, voilà, comme vous l'avez dit, avec la règle de proximité, je crois qu'on appelle ça. C'est-à-dire voilà. Que le plus proche du verbe ou de l'adjectif bah, s'accorde avec ce nom. Et puis, quand tout le monde est allé à l'école, bah, tout le monde a commencé à appliquer cette règle.
Alors, en fait, les grammairiens de la fin du XVIIIe siècle commençaient à dire qu'il fallait faire comme ça. On a l'histoire d'un grammairien qui reprend Madame de Sévigné, comme quoi Madame Sévigné écrivait pas bien. Il faut être gonflé quand même. Mais ça n'impactait que les riches. Parce que c'est ceux qui allaient à l'école. Et puis quand tout le monde est allé à l'école, eh ben, tout le monde a été obligé de parler comme le voulaient les hommes de l'Académie française. Quoi.
Ça s'est surtout vu au niveau des métiers. Des métiers qui ont porté des noms exclusivement masculins. Et que jusqu'à présent, on refuse de féminiser. On se rappellera du fameux épisode à l'Assemblée nationale du Madame le Président, pour parler de la présidente de séance.
Alors, quand vous êtes au XVe siècle, une boulangère, c'est une femme qui fait du pain. Et puis, au XIXe ou au XXe siècle, c'est la femme,
c'est la femme du boulanger.
c'est pas une grande promotion, quand même. Et pareil, quand on disait la présidente, ça veut dire qu'elle était présidente de quelque chose. En fait, ça vient un peu des Germains. Chez les Germains, il y avait des femmes qui étaient chefs. Et pour les Romains, c'était la preuve que c'était des barbares.
Alors, elle va évidemment développer tout ça, parce qu'elle est, c'est une autrice qui écrit beaucoup, hein, qui a fait beaucoup de bouquins sur cette thématique, sur le féminisme, entre autres, et d'autres choses. Elle parlera des exemples concrets de comment remettre le féminin, pas au-dessus du masculin, mais comment équilibrer les deux.
Oui,
c'est ce qu'elle présentera pour cette université populaire.
Oui, elle propose tout un tas de règles. Alors, on dit la règle de proximité, quand c'est la chaise en tour dernier, on va dire verte. Après, elle propose aussi d'essayer d'utiliser des mots qui n'ont pas de genre. Quand on parle d'élève, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc, parler d'élève plutôt que d'étudiant, parce qu'il y a étudiant et étudiante, ça permet de ne pas...
Alors comment on fait quand il y a des garçons et des filles, les élèves sont entrés, alors ES ou les élèves sont entrés EES? Mais elle a une solution pour ça.
Alors s'il y a beaucoup de filles, c'est EES.
Ouais.
C'est pareil, s'il y a une majorité de filles, pourquoi est-ce qu'un seul garçon dans le groupe imposerait son genre à la phrase, à la conjugaison? Il n'y a pas de raison.
Parce que c'est comme ça, mon petit monsieur.
Ça l'a pas toujours été.
Ça l'a pas toujours été comme ça.
Alors ça fait un peu réactionnaire, mais bon... Et se revenir, se rappeler que nos ancêtres...
C'est assez cocasse que l'université populaire d'attaque fasse dans le réactionnaire.
Oui, on veut revenir à ce qui se faisait avant. Mais voilà. Mais ça fait longtemps qu'on a invité plusieurs fois Emmanuel Todd, qui rappelle que le statut des femmes s'est plutôt dégradé au cours de l'histoire, et que nos ancêtres avaient plus de considération pour les femmes il y a 5000 ans que nous aujourd'hui.
En tout cas, c'est un sujet passionnant que nous présentera Eliane Viennot. Alors, c'est mardi prochain, donc ce sera le 28 mars. Il faut réserver pour venir aux universités.
Non, il y a un mail à envoyer. Il y a suffisamment de place à la verrière. Si vous avez notre contact, vous pouvez nous envoyer un mail, comme ça on peut prévoir. Mais il n'y a pas de souci. La conférence est à 20h30, mais dès 20h, on vous accueille à la verrière avec un libraire qui est là, qui nous proposera les livres d'Eliane Viennot et puis des livres autour de ce thème-là.
Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez préparer vos questions, puisqu'il y a une présentation qui se fait, et puis après, c'est un échange avec le public.
Il y a un échange avec le public, oui. C'est toujours riche.
Un site internet également, up78.org.
Oui, sur lequel vous retrouverez le programme des prochaines conférences.
Les émissions en podcast. Hein.
Et les émissions en podcast, puisque Radio Marmite vient nous les enregistrer à chaque fois. Donc ça, c'est... une mémoire de l'UP qu'on apprécie beaucoup.
Merci Olivier d'être venu au micro de la Marmite pour nous présenter cette université populaire. Puis à bientôt.
À bientôt.
Marmite FM 88.4, il est 17h passé de 45 minutes. On passe à la chronique consommation responsable de Chloé. Et cette semaine, elle nous parle d'un thème repris par les candidats à la présidentielle, les perturbateurs endocriniens.
Marmite FM présente la chronique consommation responsable et développement durable avec Chloé.
Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous parle santé. Et oui, ce que l'on mange fait aussi notre santé. En fait, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens, un thème qui apparaît dans le programme de certains candidats à la présidentielle et cela me semble normal vu l'ampleur à venir des soucis de santé dus à ceux-ci. Alors les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Les substances chimiques dites perturbateurs endocriniens sont très largement présentes dans notre environnement. En France, en Europe et dans le monde, l'évaluation des risques liés aux perturbateurs endocriniens est devenue un enjeu de santé publique. Un perturbateur endocrinien est, selon l'Organisation mondiale de la santé, une substance chimique d'origine naturelle ou synthétique étrangère à l'organisme et susceptible d'interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, c'est-à-dire des cellules et organes impliqués dans la production des hormones et leurs actions sur les cellules dites cibles via des récepteurs. Alors, quels sont les effets sur la santé d'une exposition aux perturbateurs endocriniens? Un certain nombre d'affections sont aujourd'hui suspectées d'être la conséquence d'une exposition aux perturbateurs endocriniens. La baisse de la qualité du sperme, l'augmentation de la fréquence d'anomalies du développement des organes ou de la fonction de reproduction, l'abaissement de l'âge de la puberté. Le rôle des perturbateurs endocriniens est aussi suspecté dans la survenue de certains cancers hormonodépendants. Les perturbateurs endocriniens peuvent interférer sur le système endocrinien de trois façons. Ils peuvent imiter l'action d'une hormone naturelle et provoquer la réponse des cellules cibles à cette hormone, bloquer la fixation d'une hormone sur son récepteur au niveau des cellules cibles, et enfin gêner ou bloquer la production ou la régulation d'une hormone ou de son récepteur et donc modifier le signal hormonal. Quelles sont les sources d'exposition aux perturbateurs endocriniens? Tout d'abord, ils sont présents dans différents milieux et l'exposition peut intervenir par différentes voies, l'ingestion, l'inhalation ou le contact cutané. Alors, les principales sources d'exposition sont donc l'ingestion, par l'alimentation et par l'eau, du fait de la migration de ces perturbateurs endocriniens depuis l'emballage des denrées alimentaires, des résidus hormonaux dans les denrées alimentaires, des résidus de pesticides dans les céréales et les végétaux et par la contamination des sols et de cultures. Par l'inhalation donc, par l'air et du fait de certains produits industriels, les pesticides, produits de consommation courante, les produits cosmétiques, etc. En milieu professionnel, les personnels de certains secteurs tels que ceux de l'agriculture, manipulant des produits phytosanitaires, l'industrie pharmaceutique avec la production d'hormones et chimiques avec la fabrication de pesticides, d'herbicides et de matières plastiques, peuvent être exposés donc directement à ces perturbateurs endocriniens à de fortes doses, plus importantes donc que la population générale. Des exemples de substances, par exemple le distilbène, responsable de malformations congénitales, ce médicament a été prescrit dans les années 50-60, il est heureusement maintenant interdit. Le chlordécone, un pesticide autrefois utilisé notamment dans les bananeraies pour lutter contre les charançons. Certains phtalates qui sont présents dans les produits comme les adhésifs, les huiles lubrifiantes, les détergents, les solvants, les produits pharmaceutiques, les fils, les câbles électriques, les produits cosmétiques. Certains parabènes, employés comme conservateurs dans plus de 80% de produits cosmétiques et utilisés aussi dans les médicaments, ou également comme additifs alimentaires en raison notamment de leurs propriétés antibactériennes et antifongiques. Le bisphénol A, dont vous avez certainement plus entendu parler, que l'on retrouve dans certains produits comme les CD, les lunettes, les boîtes de conserve, dans certaines denrées alimentaires, mais également dans les tickets de caisse. Certains composés perfluorés qui sont très persistants dans l'environnement, utilisés dans les traitements textiles anti-taches et imperméabilisants, les enduits résistants aux matières grasses, les emballages en papier, cartons alimentaires, etc. Tout ça, c'est également aussi donc dans les vêtements, vous savez, dans les vêtements de sport qui sont très antitranspirants, tout ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, les perturbateurs endocriniens sont partout. C'est donc un enjeu sanitaire, environnemental et scientifique majeur. L'évaluation des risques sanitaires des perturbateurs endocriniens est complexe et sujette à controverse en raison notamment de l'absence de critères harmonisés en matière d'identification et d'évaluation de ces molécules chimiques. Alors, heureusement, depuis quelques années, plusieurs programmes de recherche s'intéressent aux perturbateurs endocriniens en France et dans le monde, notamment la Commission européenne qui finance plusieurs projets de recherche dans le cadre du groupe de recherche européen Credo, le Programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens PNRPE qui a été lancé par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, mais aussi l'Agence américaine de protection de l'environnement qui finance aussi plusieurs projets de recherche. Voilà un aperçu de ce que sont les perturbateurs endocriniens et des risques qu'il est urgent d'établir pour prendre les mesures nécessaires au niveau des gouvernements. Vous pouvez trouver plus de renseignements sur le site de l'ANSES, A-N-S-E-S, notamment, qui est l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Je vous souhaite, en attendant, une très bonne après-midi en compagnie de Marmite fait son actu. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Chloé. Sans transition, on donne la parole au soleil de la marmite pour la critique ciné.
Bah oui, parce que moi, je voulais faire du cinéma.
Hasta la vista, baby. Vers l'infini et au-delà.
Allô?
Salut, Sydney. Quel est ton film d'horreur préféré?
Cindy, c'est bon, tout le monde sait que tu n'aimes pas les films d'horreur, ça va?
Ça va, Nourazine, bonjour à tous.
Alors, cette semaine, tu es allé voir le film Loving.
Exactement. Alors, dimanche soir, à l'occasion du printemps du cinéma, je suis allée voir Loving au Grenier à sel.
Ah.
Voilà, j'étais très impatiente de voir ce film et en fait, je le trouvais nulle part, sauf au Grenier à sel. Donc, j'étais super ravie d'aller le voir là-bas. Rappelons que le réalisateur est Jeff Nichols, donc le réalisateur des excellents Take Shelter et Mud, dont on avait
un excellent film.
Voilà, dont on avait parlé ici à la radio, et plus récemment en 2016 de Midnight Special. Je crois pas que j'avais fait de critique de celui-là.
Et je crois pas que je l'ai.
Non, mais toi, on va pas revenir là-dessus. Mais bon,
j'ai vu Mud, c'est déjà ça.
Voilà. Rappelons aussi que l'actrice principale, qui est Ruth Negga, était nommée aux Oscars 2017 pour son rôle dans Loving. Beaucoup même la voyaient gagnante, car elle apparaissait vraiment comme une révélation hein, pour la presse, bien qu'elle soit dans le métier depuis une quinzaine d'années. Mais voilà, pour eux, c'était une révélation. Autre bonne raison d'aller voir Loving, c'est la belle histoire d'amour qui y est décrite. Une histoire qui est inspirée de faits réels. Mildred et Richard vivent dans le sud des États-Unis à la fin des années 50. Elle est noire et il est blanc, et leur amour, il est interdit. Leur seule envie, c'est de se marier et ils vont tout tenter pour y arriver. Donc voilà un petit peu l'histoire. Au premier abord, on peut penser qu'il s'agit d'un énième film sur les droits civiques hein, qui fleurissent depuis peu à Hollywood. On en voit vraiment pas mal ces derniers temps. Et c'est vrai, mais qu'en partie, une toute petite partie, le plus important, c'est vraiment la relation entre Mildred et Richard. Et elle est magnifiquement mise en scène avec des gros plans sur les personnages. Il y a très peu de dialogue. Il y a vraiment de beaux silences dans le film, des super jeux de regard. Enfin, voilà, moi j'ai juste adoré. Je pense que vous comprenez. Et Joel Egerton, l'acteur principal, il vaut aussi le détour hein, autant que Ruth Negga pour son rôle de taiseux. Un rôle auquel il nous a pas vraiment habitués. Là, il fait vraiment parfait homme du Sud, le caractère qu'on leur imagine, parce qu'il faut pas faire non plus de clichés. Mais il est en même temps tout en fragilité. Et on est rapidement en même temps plongé dans l'ambiance. Au début, ça va très rapidement. On voit leur vie quotidienne avec plein d'images qui décrivent le quotidien des amoureux. Puis il y a aussi de magnifiques décors. Je ne saurais pas dire si ça a vraiment été tourné en Virginie, mais il y a des plaines comme ça, de champs, de forêts. Enfin, c'est vraiment
très beau.
C'est
sa force, ce réalisateur, j'ai l'impression. Parce qu'il a vraiment réussit vraiment à recréer des ambiances.
Ouais, vraiment, comme dans Mud.
Comme dans Mud, exactement.
Et je me rappelle plus pour Take Shelter, mais Mud, c'était le sud des États-Unis aussi. Donc je pense que c'est vraiment son coin. Je ne sais pas s'il est originaire de cette région, mais voilà. Et en tout cas, de très beaux paysages. Donc, en somme, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous arrivez à le trouver encore quelque part. Je ne sais pas s'il passe encore au Grenier à sel.
Non, c'est fini. C'était jusqu'à mardi.
Voilà, dommage.
Et puis ça finit bien, parce que c'est l'histoire, c'est la vraie histoire.
Et se voit que tu l'as pas vu.
D'accord, donc ça se voit que je ne l'ai pas vu. D'accord, donc ils meurent tous les deux.
Non, pas du tout, mais bon. Bon, bref.
C'est romancé. En tout cas, dans la vraie histoire, ils arrivent à...
Tu spoiles les...
Mais non, mais
les
dans la vraie cas. Histoire. Donc c'est l'histoire... D'accord, je dis rien. Il se passe quelque chose dans la vraie histoire. Et est-ce que ça va se passer sur quelque chose qu'on ne sait pas dans le film? Voilà. Vous verrez, allez voir Loving. Et Loving, c'est le nom de famille.
Exactement.
Du monsieur.
Mais moi, je suis allée le voir sans savoir que c'était une histoire vraie. Et je pensais que c'était Loving comme le verbe, quoi. Mmh. Aimer, enfin... Mmh. Et quand j'ai découvert que c'était une histoire vraie, waouh, j'ai trouvé ça encore plus troublant, quoi.
Loving, donc, que tu nous conseilles d'aller voir. Merci, Cindy.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bon, on va se quitter en musique, hein, pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les rendez-vous culturels. Ben, vous allez sur le site saintquentinenyvelines.fr ou vous tapez kiosque, kiosque.sqy.fr à tous les rendez-vous.
Ou alors vous tapez cinémagrenier.com.
Merci Gaël. On le disait tout à l'heure, émission spéciale avec les morceaux de Chuck Berry, le fondateur du rock and roll. Alors cette fois-ci, c'est pas Chuck Berry qui chante, c'est Bruce Springsteen. Oh, j'ai du mal à dire Bruce Springsteen. Qui reprend le titre du Never Can Tell. Il est sorti en 1964, ce titre de Chuck Berry, qu'on peut retrouver dans Pulp Fiction notamment. Et cette version qui a été choisie par Fred, donc elle est chantée en improvisation, c'est-à-dire que c'est un membre du public qui vient apporter, voilà, avec un petit écriteau, j'aimerais bien ce titre You Never Can Tell de Chuck Berry. Lui, il prend ce truc-là, il dit « Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette chanson », il se cale et ça donne « Salut tout le monde !»
Son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.